Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Washington, 2h en temps universel.
Mathis Limano.
Et 5h30 à Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne dément les propos de Donald Trump et dit qu'aucun accord de cessez-le-feu n'a été signé avec Israël, mais se dit toutefois prêt à arrêter son offensive dès que l'État hébreu cessera ses bombardements. Plus tôt, le président américain avait assuré que les deux camps étaient tombés d'accord pour arrêter les combats. Plusieurs de ces militants avaient endommagé des avions de combat britanniques pour protester contre les armes livrées à Israël. Au Royaume-Uni, une organisation pro-palestinienne interdite par le gouvernement. Et puis la cybercriminalité en hausse sur le continent africain. Dans son dernier rapport, Interpol tire la sonnette d'alarme. À ce stade, il n'y a pas d'accord sur un cessez-le-feu avec Israël. La réponse de l'Iran après l'annonce de Donald Trump sur son réseau social. Le président américain avait assuré que les deux camps étaient tombés d'accord sur un arrêt des combats. Affirmation démentie donc il y a moins d'une heure par Téhéran, qui dit toutefois être prêt à cesser les hostilités dès qu'Israël stoppera son agression. L'Iran a par ailleurs riposté hier aux frappes américaines sur ses installations nucléaires. La base américaine d'Al-Udeid au Qatar, la plus importante du Moyen-Orient, ciblée par des tirs de missiles. Le Qatar dit en avoir intercepté une partie. Les États-Unis font état d'aucune victime et de dégâts limités. Pour Thierry Coville, spécialiste de l'Iran et chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, ces frappes iraniennes répondent à un double objectif pour Téhéran.
L'Iran était entre deux impératifs. Le premier impératif, c'était qu'ils étaient quelque part obligés de répondre, parce que là, c'est quand même de nouveau une violation du droit international. Ils sont attaqués sur leur sol, donc vis-à-vis même de leur population. Ils étaient obligés de répondre. Mais d'un autre côté, on sait aussi, ils ont bien compris, ils ne veulent pas provoquer inutilement Donald Trump et lui donner des prétextes pour attaquer encore plus l'Iran. Donc je pense que ils étaient face à ces deux objectifs. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé, je suppose, au début 2020, quand le général Qassem Soleimani s'est fait assassiner par les Américains. Ils ont promis une vengeance, etc. Finalement, ils ont bombardé une base américaine en Irak en ayant prévenu. Et tous les soldats américains s'étaient sortis de la base. Je pense qu'ils ont essayé de remplir ces deux objectifs, répondre, parce qu'ils étaient quasiment obligés de répondre, ils se sont fait attaquer quand même. Mais d'un autre côté, ne pas donner de prétexte aux États-Unis pour bombarder encore plus, parce que ça, l'Iran sait bien qu'ils font pas le poids. Déjà, ils ont du mal face à Israël. Alors, s'ils se retrouvent dans une guerre totale face à Israël et les États-Unis, là, ce sera un peu compliqué pour eux.
Le chercheur Thierry Coville avec Romain Ozoui. Donald Trump a réagi à cette riposte de l'Iran, la jugeant très faible. Il a aussi remercié Téhéran d'avoir prévenu les États-Unis, permettant ainsi l'évacuation du personnel de la base d'Al-Udeid. Pour leur part, les gardiens de la révolution ont mis en garde les États-Unis contre toute nouvelle attaque contre le territoire iranien. Et c'est dans ce contexte régional explosif que des responsables irakiens font état à l'agence France Presse d'une frappe de drone sur le territoire irakien. Un drone non identifié qui a touché les radars de défense aérienne d'une base militaire au nord de Bagdad sans faire de victimes. Un autre drone est lui tombé près d'un générateur, d'après les forces de sécurité irakiennes. Nouvelle nuit de bombardement aussi en Ukraine. Des frappes de drones russes ont fait 3 morts au nord-est du pays, dans la ville de Soumy, d'après les autorités régionales. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est en route pour La Haye, aux Pays-Bas, où s'ouvre ce mardi le sommet de l'OTAN. Avant cela, le président ukrainien était à Londres. Il a signé avec le Premier ministre Keir Starmer un accord de coopération militaire entre les deux pays. Londres, où on se rend avec l'interdiction par le gouvernement britannique de l'organisation Palestine Action. Vendredi, des militants s'étaient introduits dans une base aérienne de l'armée et avaient jeté de la peinture sur des avions de combat pour protester contre la vente d'armes à Israël. Résultat, 25 millions d'euros de dégâts. Londres décide donc de placer l'organisation sur le même plan légal que des groupes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Hier, des centaines de manifestants se sont réunis à Londres pour protester contre l'interdiction de l'organisation, Emeline Vin.
Membre du groupe Palestine Action, en passe d'être interdit, Vanessa défend un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Elle pourrait bientôt tomber sous le coup des lois antiterrorisme.
Si être terroriste, c'est vouloir sauver des enfants et des adultes et faire entendre ma voix, alors appelez-moi terroriste. Ils peuvent me mettre cette étiquette, mais moi, je me considère comme une humaniste.
Prévu devant le Parlement, le rassemblement tendu a été déplacé par la police sur une parcelle restreinte de Trafalgar Square. Mara et Mike ne comprennent pas l'interdiction du groupe.
Notre Premier ministre était un avocat des droits humains et le voici qui menace la liberté d'expression.
On se targue d'être une grande démocratie et maintenant on réduit au silence ceux qui s'opposent au régime israélien.
Cette étudiante, elle, ne manque aucun rassemblement en soutien à Gaza.
C'est ridicule de cibler Palestine Action. Tout ce qu'ils ont fait, c'est jeter de la peinture en protestation contre un génocide. Nous devons tout faire pour les empêcher de réprimer le mouvement pro-palestinien. C'est pour ça qu'il faut participer à ces rassemblements.
La ministre de l'Intérieur justifie l'interdiction de Palestine Action par ses nombreux dégâts criminels inacceptables. Plusieurs figures du Parti travailliste au pouvoir dénoncent une mesure disproportionnée. Emeline Vang, Londres, RFI.
À Londres, il est 3h passées de 5 minutes. Et 2h50 ans universel, on se penche à présent sur la cybercriminalité. Elle est en hausse sur le continent africain. C'est ce que pointe Interpol dans son rapport 2025 des cybermenaces, les arnaques en ligne, les rançongiciels et la compromission de courriers professionnels sont parmi les cybercrimes les plus répandus et les pays manquent de capacités informatiques pour lutter efficacement. Pierre Firsion.
La cybercriminalité représente plus de 30% de l'ensemble des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle apparaît en très forte augmentation dans certains pays, exemple en Zambie, où les arnaques en ligne ont explosé de 3000% entre 2023 et 2024. Parmi les escroqueries les plus utilisées, le phishing ou l'hameçonnage arrive en tête. Cette arnaque qui consiste à obtenir les données personnelles d'un internaute en se faisant passer pour un organisme reconnu représente 34% de tous les incidents cyber détectés à travers l'Afrique. Autre fléau en augmentation, les rançongiciels, ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les cryptant. Près de 18 000 attaques de ce type ont été détectées l'an passé en Égypte et plus de 12 000 en Afrique du Sud. Interpol note également que la compromission de courriels professionnels a fortement augmenté, tout comme les cas de sextorsion numérique, du chantage en ligne via des images sexuellement explicites. Ces images peuvent être authentiques ou générées par intelligence artificielle, précise le rapport. Voilà pourquoi Neil Jetton, le directeur de la cybercriminalité d'Interpol, alerte : la fraude par intelligence artificielle existe. Estime-t-il une attention urgente.
Pierre Firsion, l'actualité en France, les députés ont commencé l'examen de la proposition de loi visant à créer un registre national répertoriant tous les cas de cancer. Avec 400 000 nouveaux cas chaque année, le nombre de cancers ne cesse d'augmenter et si certains professionnels de santé sont plutôt favorables à la création de ce registre, d'autres sont plus critiques, Sylvie Coffi.
Le cancer, première cause de mortalité en France, est sous haute surveillance. L'une des missions de l'Institut National du Cancer est de recueillir des données pour mieux prévenir et soigner. À sa tête, Nicolas Côté est favorable à la mise en place d'un registre national.
Pour nous, ça va être un vrai bond en avant dans le suivi et la surveillance de l'épidémiologie. L'idée est d'enrichir fondamentalement les outils qui sont à notre disposition pour répondre à une demande des Français de savoir et de comprendre ce qui se passe sur l'évolution des cancers, leur augmentation. Cette compréhension globale en fait, qui nous est demandée par les parlementaires et on se met à disposition d'eux pour pouvoir les mettre en œuvre avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et qu'on veut enrichir.
Parmi ces outils, le système national des données de santé existe déjà. Alors pourquoi créer un nouveau dispositif ? S'interroge Mahmoud Zourek, professeur d'épidémiologie.
Je ne suis pas opposé qu'il y ait un registre, je suis opposé qu'il y ait un registre parallèle qui coûtera beaucoup plus cher et qui répondra à très peu de questions par rapport à un système transversal, réactif, qui aidera pour le cancer et pour les autres problématiques de santé en France.
D'ici 2050, les cancers seront encore à la hausse de près de 80% sur le plan mondial.
Sylvie Covy, Service France de RFI. Enfin, on fait un point sur le mondial des clubs qui se poursuit aux États-Unis. À noter la qualification en huitième de finale du PSG, le favori. Les Parisiens ont dominé les Sounders de Seattle 2-0. Un succès qui leur permet de finir premier de leur groupe. Ils disputeront leur huitième de finale dimanche à Atlanta. Et ce sera face au deuxième du groupe A où le suspense reste entier. Les quatre équipes du groupe A jouent en ce moment. La seconde mi-temps vient de reprendre sur les deux pelouses. Et si l'on en reste là, ce sont les Brésiliens de Palmeiras qui retrouveront Paris dimanche, mais rien n'est joué. Il reste encore, je vous le disais, une mi-temps à jouer. Il est presque 4h10 à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonne suite des programmes sur la radio du monde. Tout de suite, retrouvez les voisins et les voisines dans 8 milliards de voisins.